pourra pas dire qu'on ne vous parle pas de la Sainte Écriture, n'est-ce pas ? Puisque vous avez eu une session qui continuera encore demain, et que maintenant nous allons regarder un peu le point de vue de Saint Jean, Saint Luc et Saint Jean, hein, c'est très bien, c'est complémentaire. Et l'exégèse et une théologie mystique, c'est complémentaire, il faut bien te dire ça. Et ça doit être toujours complémentaire. C'est ça que je voudrais que vous arriviez petit à petit. Il faut une diversité et une unité. Mais il faut la diversité, il faut accepter la diversité à cause de la complexité de notre manière de connaître. Et je crois que c'est très important d'avoir cette complexité. Les uns sont plus proches d'une exégèse, d'autres sont plus proches du point de vue mystique, d'autres sont plus proches du point de vue proprement métaphysique. Il y a des proximités différentes. Et je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre que ces proximités différentes doivent justement, dans leur diversité, arriver à une complémentarité. Mais il ne faut pas opposer. On ferait des démarches dialectiques. Il faut montrer la complémentarité. Il faut montrer que, de fait, la parole de Dieu a une richesse tellement grande que toutes nos modalités de connaissance peuvent servir à la parole de Dieu. Même la biologie, pour toute la grande théologie du Sacré-Cœur, il ne faut pas l'oublier. Il faut comprendre que tout est mobilisé. Et je crois que c'est ce qu'il faut arriver progressivement. Alors, le faire avec intelligence et le faire sans faire de compromis. Nous avons donc essayé de comprendre les trois premiers moments de l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire le prologue, la charte de la contemplation, l'espérance eschatologique d'un Jean-Baptiste. C'est évident que c'est l'espérance du précurseur, mais qui nous montre d'une manière symbolique, mais d'une manière réelle, d'un symbolisme divin, ce que doit être notre attente du retour du Christ. Il faut toujours comparer l'attente de ceux qui sont à Jérusalem et l'attente de Jean-Baptiste. Et je crois qu'on pourrait faire des comparaisons analogues aujourd'hui. L'attente de ceux qui sont vraiment pauvres, alors ils n'ont qu'un seul désir, c'est le retour du Christ. Et puis, ceux qui sont installés et qui veulent à tout prix réaliser des œuvres, qui disent au Seigneur, je veux bien que vous arriviez, mais après que j'ai terminé mon œuvre. Des quantités disent ça. Hein. Oh, ils ne le disent pas, ils n'avouent pas, mais au fond, dans le fond de leur cœur, ils le disent. Attendez un tout petit peu que j'arrive à un certain âge, alors à ce moment-là, pour arriver, mais n'arrivez pas trop vite. Et c'est très vrai que c'est pas commode de fermer une maison. C'est facile d'en ouvrir une, facile, relativement facile, d'en ouvrir une, et c'est beaucoup plus difficile d'en fermer une. Fermer cette grande maison de Dieu qui est l'Église. L'Église s'est installée au cours des âges, on ne peut pas nier, elle s'est installée. Et ce renouveau de l'Église consiste à comprendre qu'il faut qu'elle se désinstalle pour être en attente. Et je crois que c'est ce que nous vivons dans le renouveau de l'Église. Ce n'est pas s'opposer, vous voyez, comme on pourrait dire l'Église triomphante et puis l'Église des pauvres, alors on oppose des deux. C'est pas ça. Toute opposition comme ça, dialectique, n'est pas du Saint-Esprit. La dialectique ne peut pas nous dire ce qu'est la vie. Mono l'a dit. Alors, je peux l'appliquer quand il s'agit de l'Esprit Saint, qui est le vivant, et qui nous fait comprendre ce qu'est la démarche de la vie de l'Église. On ne comprend rien du tout si on prend une méthode dialectique pour comprendre la marche de l'Église, pour comprendre la marche de l'Église, le pèlerinage de l'Église. Et la croissance de l'Église. L'Église, c'est une croissance. C'est une croissance qui, à la différence de la croissance humaine, n'a pas de haut plateau ni de troisième âge. N'est-ce pas ? C'est une croissance tout le temps continue et qui ne cesse de continuer. Et donc la croissance actuelle de l'Église est plus forte qu'au Moyen Âge. Il y a un appel plus grand. Et si j'applique le point, ce que saint Thomas dit, que plus le grave s'approche du centre, plus il accélère sa vitesse, n'est-ce pas ? Parce que c'est plus l'Église s'approche du terme, plus la croissance est rapide. Et nous sentons bien cela, nous sentons une espèce de croissance qui doit aller beaucoup plus vite qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on doit télescoper la formation au nom de la croissance rapide, mais on comprend que on doit faire tout avec une intensité plus grande. L'espérance eschatologique, c'est cette grande tension de l'Église, mais une tension divine, pas psychologique, une tension divine qui fait que nous sommes de plus en plus proches du terme et que nous devons être comme des pauvres. Les pauvres qui n'ont rien à perdre. Alors ils n'ont qu'un seul désir, c'est le retour du Christ. Et chaque fois que Dieu nous ébranle un peu dans notre santé, n'est-ce pas, les coups de bambou du Saint-Esprit, alors n'oublions pas que chaque fois que Dieu nous ébranle un peu dans notre santé, c'est pour nous déraciner et pour nous rendre plus pauvres. Alors nous permettre d'augmenter notre espérance eschatologique, de l'intensifier. Parce que souvent on ne la comprend que comme ça. Autrement, on s'installe. Troisième moment, alors, le choix des apôtres, ce que nous avions vu la dernière fois. Vous voyez, je crois que nous avons là, au plan réflexion d'une théologie mystique, nous avons là un peu la structure de notre vie chrétienne. C'est assez étonnant, du reste, au point de vue théologique. La théologie chrétienne, le point de vue de la vie chrétienne implique ces trois grandes ces cinq grandes dimensions de la vocation des apôtres. C'est la marque du Christ sur nous. Il nous a aimés le premier. Donc il nous a marqués de son amour. Et le sceau de son amour a cinq dimensions. C'est très beau. Et on doit se demander de temps en temps, dans les examens de conscience, si nous vivons ces cinq dimensions. Est-ce que vous vivez ces cinq grandes dimensions de la vie chrétienne ? L'amour, l'espérance, le service. Est-ce que vous êtes un serviteur spécialisé pour le Christ? Parce qu'on doit tous être des serviteurs spécialisés, on aime mieux aujourd'hui. Parce que les serviteurs non spécialisés, c'est un petit peu gênant. Alors on doit être des serviteurs spécialisés, pas tous de la même façon, vous voyez. Mais on doit se spécialiser. Si on aime bien le point de vue spéculatif, on se spécialise de ce côté-là. Si on est un homme dans l'ordre poétique, on se spécialise de ce côté-là, pas trop de fantaisie, mais quand même un peu de poésie, n'est-ce pas ? Si on est spécialisé du côté de éthique, on se spécialise. Et on a une vision de l'écriture de cette manière-là. C'est beau, cinq grandes visions de l'écriture. Et c'est vrai, c'est les cinq grandes visions, les cinq grandes dimensions de notre vie chrétienne. Cette vie chrétienne qui a le sceau du Christ, hein. Nous sommes marqués du sceau du Christ par le baptême. Et ce sceau du Christ du baptême fait que, de fait, nous avons ces cinq dimensions à découvrir. Vous voyez, le visage du Christ sur nous prend ces cinq dimensions. Et je crois très fort qu'on peut le considérer de cette manière-là, parce que théologiquement, c'est exactement ce que dit saint Thomas. C'est quand même très impressionnant, cela. Et donc, c'est vraiment les cinq dimensions de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne fait de nous des bien-aimés. Vocation contemplative. La grâce chrétienne fait de nous des témoins, l'espérance. La grâce chrétienne fait de nous des serviteurs. Jésus est serviteur. Il est témoin, il est le bien-aimé. Vous voyez le reflet du mystère du Christ en nous. La grâce chrétienne doit être vécue dans la gratuité de l'amour. Jésus vit dans une gratuité merveilleuse. Il est le Fils bien-aimé. Et la grâce chrétienne exige le don de l'intelligence à Dieu. La vocation de Nathanaël, le Christ est lumière. Et si le Christ est lumière, il faut que notre petite lumière, qui est l'intelligence humaine, soit entièrement transformée par cette lumière plénière et totale. C'est quelque chose de très grand, vous voyez, de voir ces cinq sauts. Il faut souvent y revenir, vous savez. La manière dont vous essayez de faire vos petits examens de conscience, ou les grands examens de conscience tous les mois, et les petits tous les jours, n'est-ce pas? Alors on essaie de découvrir si cette marque du Christ est bien enfoncée en nous. Notre vie chrétienne consiste à attendre le retour du Christ, il vient, et attendre le retour du Christ en pauvre. On a toujours quelque chose à faire, hein? Et quand on a quelque chose à faire, on risque de s'installer dedans. Et la vocation chrétienne demande de vivre en contemplatif, déjà dès maintenant. Il demeure avec nous. La contemplation, c'est vivre l'actuel, l'aujourd'hui de Dieu. L'espérance eschatologique, c'est vivre aussi l'aujourd'hui de Dieu, mais le vivre comme le bientôt. Et puis les cinq dimensions de l'amour, c'est cet mystère de présence du Christ, présent comme le bien-aimé, présent comme témoin, nous faisons œuvre commune avec lui, présent comme serviteur de Dieu, dans la gratuité et dans l'offrande de notre intelligence. Donc c'est très important de bien saisir, voyez, cette structure de la vie chrétienne, qui est donnée, encore une fois, selon un mode symbolique, c'est ça qui est merveilleux, et c'est le propre, je crois, de la théologie mystique, nous le verrons de plus en plus. C'est un mode symbolique, ce qui nous permet d'unir là, voyez, saint Thomas et saint Bonaventure. C'est quand même très heureux, parce que dans le ciel, ils sont très unis. Il ne faut pas les opposer, il faut les unir. Ils s'embrassent constamment dans le ciel. Et les deux tiens, je suis persuadé que saint Bonaventure souhaite à saint Thomas une fête extraordinaire, hein, en disant, oui, toi, tu as compris ça. Moi, je ne l'ai pas compris. Et saint Thomas, devant sa voix, en disant, mais toi, tu as chanté la gloire de Dieu et la louange de Dieu. Ça va être beau, ce petit dialogue entre saint Bonaventure et saint Thomas. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on est vraiment disciple de saint Thomas, on a un regard sur saint Bonaventure. Vous voyez, quand le commentaire sur l'évangile de saint Jean de saint Thomas sera terminé, il faudra s'y mettre au commentaire de saint Bonaventure. Vous voyez, pour qu'il y ait deux grands commentaires de saint Thomas et de saint Bonaventure. Alors à ce moment-là, je crois qu'on sera vraiment fils et disciple de saint Thomas, s'il y a cet amour de saint Bonaventure. Parce que c'est quand même beau de voir les deux. Et je crois que les deux doivent être unis. Vous voyez, c'est le propre du mystère de l'unité aujourd'hui. On a fait des écoles avant, maintenant on brûle les écoles et on revient aux sources, et les sources sont unies. Alors nous allons maintenant essayer de comprendre, à partir du chapitre 2, comment de fait saint Jean nous présente la vie apostolique de Jésus. Comment Jésus forme-t-il ses apôtres? Parce qu'il les forme dans ce noviciat particulier de sa vie apostolique. Ça, c'est un noviciat très particulier. C'est peut-être le noviciat de la dernière semaine, n'est-ce pas? C'est le noviciat qui est fait avec la vie apostolique de Jésus. Jésus ne les a pas menés au désert en disant, maintenant, vous allez avoir un an de noviciat. Après cette année de noviciat, prise d'habit, ou bien première profession, et ainsi de suite. Hein. Non, il les forme sur le temps, de façon étonnante. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Vous voyez, il y a la vie apostolique de Jésus, les dimensions de la vie apostolique de Jésus. Moi, c'est, la grande théologie, c'est de comprendre Jésus apôtre, et de le comprendre dans la lumière même de saint Jean, un théologien de la vie apostolique de Jésus. Mais un théologien de la vie apostolique de Jésus va nous faire comprendre toujours que au-delà de la vie apostolique, il y a l'alliance du Fils bien-aimé avec le Père. Et comment, chaque fois que nous voyons un aspect de la vie apostolique de Jésus, c'est-à-dire ou un signe ou un enseignement, ou un geste ou un enseignement du Christ, derrière ce geste et derrière cet enseignement, il faut découvrir les nappes profondes du cœur de Jésus, en tant qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Et comment Jésus, par là, va atteindre le cœur de ses apôtres et va les former. Et donc, c'est pour nous cela. C'est pour nous. Hein. 3 ans de formation. C'est peut-être pour ça que les vœux sont pour 3 ans, voyez, avant d'être les vœux qui nous mettent sur la croix. Alors c'est éternel à ce moment-là, parce que la croix nous conduit à la résurrection, et donc c'est éternel. Mais avant, il y a 3 ans, 3 cycles, on devrait dire. Aujourd'hui, on a mis 2, on a oublié le 3e. Alors, il faut dire 3 cycles. Il y a 3 cycles qui sont très beaux, du reste. On va essayer de les découvrir. Moi, je crois qu'on pourrait découvrir de cette manière-là 3 cycles de formation du cœur chrétien, du cœur des disciples du Christ. Alors, on va essayer de découvrir ça progressivement, si vous voulez, ensemble. Hein, parce que la vie apostolique de Jésus, vous comprenez que c'est en premier lieu pour les apôtres. Jésus se dévoile aux apôtres par son enseignement et par ses gestes. Il se dévoile à son peuple, mais aux apôtres, et aussi à Marie. Alors, il faut découvrir progressivement ce qui nous est montré à travers l'évangile de Saint Jean. Je vous ai déjà dit, il faut découvrir l'ordre de la vie apostolique de Jésus. Et ça, je crois que c'est important. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Toutes les œuvres de Dieu, c'est dit dans l'Ecclésiaste, impliquent ordre, mesure et poids. Et saint Augustin aime beaucoup cette affirmation. Et saint Thomas aussi. Toutes les œuvres de Dieu impliquent ces 3 grandes dimensions. Je crois que si l'évangile de saint Jean est la révélation dernière, c'est donc la dernière œuvre divine qui nous est donnée. À la place d'avoir un temple, nous avons le corps du Christ et nous avons l'enseignement du Christ. Alors c'est la lumière du temple, l'évangile de saint Jean. Et c'est cette lumière qu'on doit découvrir. Et on doit essayer de découvrir cette construction merveilleuse qui nous est donné. C'est architectural, toujours, les œuvres de Dieu, vous savez. Il y a quelque chose de toujours très architectural, parce que c'est la sagesse. Alors, il y a quelque chose qui est grand à découvrir, et je crois qu'on doit découvrir cette œuvre architecturale d'un enseignement du Christ. C'est construit, c'est structuré, c'est pas du tout quelque chose qui va n'importe comment. Non, non, c'est très structuré, bien plus qu'on ne pense, et plus on avance, plus on voit c'est structuré. Alors il faut découvrir cette structure, il faut découvrir cet ordre. Et c'est difficile. D'un point de vue purement exégétique, c'est très difficile. C'est pour ça que mon ancien professeur d'exégèse, qui n'est pas le père Spix, ce n'est pas le père Spix qui enseignait le saint Jean à ce moment-là, c'est un autre exégète qui est dans le ciel maintenant. Alors il voit tout ça dans l'ordre merveilleux de la sagesse de Dieu. Et alors ce bon père disait qu'il ne fallait jamais chercher dans saint Jean un ordre. Dans saint Luc, oui, c'est merveilleusement ordonné. C'est pour les intellectuels, Luc. C'est vrai que c'est l'évangile beaucoup plus intellectuel. Tandis que Jean, c'est un évangile du cœur. C'est le cœur profond. C'est la contemplation. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il ne faut pas, encore une fois, opposer, il faut compléter. Et dans saint Luc, il y a des quantités de choses que je suis persuadé que Luc a pris à Jean. Et donc, ils reviennent de Marie, c'est sûr. Tout le début de l'évangile de saint Jean, c'est évident, l'évangile de la vie cachée, c'est sûr. Mais même après, ce serait très calé de pouvoir souligner dans saint Luc toutes les sources de Joannique. Ce serait merveilleux. Ce serait très intéressant de voir ça. Saint Luc ne l'a pas dit, hein. Alors, on ne peut jamais le savoir d'une façon absolue. Si on regarde saint Jean, alors non plus uniquement dans une lumière exégétique, mais dans une lumière de théologie mystique, je dois découvrir dans saint Jean cet ordre. Ça me semble très important. Tant qu'on ne l'a pas découvert, il y a des quantités de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas. Mais c'est un petit peu comme dans les études, hein. Tant qu'on n'a pas saisi un peu l'ordre dans lequel on nous enseigne les diverses matières, on se dit, tiens, c'est un peu chaotique, on ne voit pas très très bien, c'est un chantier. Alors un chantier, c'est jamais très très beau, hein. Il y a beaucoup de poussière, et puis c'est un chantier. Alors la première année de philosophie, c'est un chantier. Beaucoup de creux, beaucoup de... La seconde année, tout petit peu, on voit. Et la troisième année, c'est lumineux. C'est un ordre extraordinaire, merveilleux qu'on découvre. Eh bien, si vous regardez attentivement l'évangile de Saint Jean, vous voyez que l'évangile de Saint Jean me semble être ponctué par les repas. C'est assez normal. L'Ancien Testament, et nous le verrons, est ponctué par les sacrifices. Si je veux saisir l'ordre de l'Ancien Testament, qui est un ordre imparfait, l'Ancienne Alliance est imparfaite, donc c'est un ordre imparfait. Il n'y a pas de principe, tout est ordonné au Christ. Si tout est ordonné au Christ, il n'y a pas de principe dans l'Ancienne Alliance. C'est un ordre imparfait, mais il y a un ordre qui est du côté de la disposition. Tandis que l'ordre que nous trouvons dans Saint Jean, c'est l'ordre du côté de la causalité finale. C'est l'ordre de perfection. L'Ancien Testament est ponctué par les sacrifices, les rencontres de l'homme avec Dieu. Le Nouveau Testament, qui est au-delà du sacrifice, puisque c'est l'amour, l'amour à l'égard de Dieu qui assume le sacrifice et qui se manifeste à travers le sacrifice est présent, mais l'amour à l'égard de Dieu implique l'amour à l'égard du prochain. Les deux sont intimement liés. L'amour à l'égard du prochain, on comprend très bien que ça se manifeste à travers les repas. Les repas sont le moment de la charité fraternelle par excellence. C'est pour ça qu'on garde le silence, vous voyez. Parce que c'est la charité fraternelle merveilleuse, où on écoute tous une lecture, n'est-ce pas? Surtout quand elle est sur Jeanne d'Arc, alors c'est merveilleux d'écouter ça, et on est dans la détente de la charité fraternelle. Et quand c'est une fête, alors il peut y avoir une détente un peu plus expressive, alors il y a une détente. C'est très curieux, les repas, c'est la détente de la charité fraternelle au niveau fraternel, au niveau familial, les repas de famille. De sorte que je crois qu'on peut comprendre assez facilement que l'Ancien Testament est ponctué par les sacrifices. Et on essaiera de lire cette ponctuation de l'Ancien Testament, elle n'est pas commode, hein, mais elle existe, il faut la découvrir. Et puis la ponctuation du Nouveau Testament dans le dernier livre du Nouveau Testament qui est Saint Jean, le point de vue de la charité fraternelle à travers le repas. Alors vous avez assez facilement, je ne vais pas vous donner l'ordre complet maintenant, mais du chapitre 2 au chapitre 6, puisque c'est Cana, et chapitre 6, la multiplication des pains. Puis du chapitre 6 au chapitre 12, chapitre 12, c'est repas de Béthanie. Vous avez les trois grands repas. C'est assez impressionnant, du reste, ces trois repas. Et dans la dernière semaine, vous avez le grand repas avec le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Jean n'en parle pas. Il faudra essayer de comprendre pourquoi. Et puis vous avez le dernier repas, qui est alors tout à fait au terme. Ce petit repas du petit déjeuner. C'est merveilleux. Après toute une nuit de travail inefficace, Jésus est là. Ce petit printemps. C'est nettement le printemps. Ça annonce le retour du Christ d'une façon étonnante. Ce repas. Le plus simple, le plus rapide, le plus merveilleux qui soit, c'est ce dernier repas. Vous avez donc la théologie des cinq repas. Et je crois que la théologie des cinq repas donne la ponctuation de toute la vie apostolique de Jésus. On essaiera de le comprendre, hein, progressivement. Je vous dis ça à titre de recherche. Parce que c'est intéressant, à titre de recherche, d'essayer de découvrir cela. Comment nous retrouvons, c'est pas pour retrouver le chiffre 5, hein, mais nous retrouvons, si vous voulez, cette structure de la charité fraternelle. Alors là, il s'agit de la structure de la charité fraternelle, à travers ces cinq repas. On retrouve là quelque chose d'assez étonnant et d'assez merveilleux, ces cinq repas. Alors, nous allons voir progressivement, si vous voulez, ces cinq grands moments de la vie apostolique de Jésus, de la formation de la vie apostolique de Jésus par rapport aux apôtres. Première période, celle que nous allons voir tout de suite, du chapitre 2 au chapitre 6. Alors, j'intitule cela, il faut bien mettre, hein, mais c'est la glose marginale, hein, donc ce n'est pas le texte, c'est une interprétation. Il faut bien interpréter. Alors, l'interprétation consiste à dire, cette premier moment, c'est les éclosions de l'amour. Première année, les éclosions de l'amour. Ça devait être extraordinaire, un noviciat de première année avec Jésus, vous voyez. C'est extraordinaire, les éclosions, parce que Jésus faisait que tout bourgeonne, et qu'il y ait des éclosions étonnantes. C'est donc un premier moment de joie. C'est des mystères de joie. Ça, c'est vraiment les mystères de joie qui apparaissent dans ce premier moment de la vie apostolique de Jésus. Dans ce premier moment de la vie apostolique de Jésus, j'essaie de ponctuer. Je vous le donne tout de suite pour que vous compreniez mieux. Puis vous vérifierez. Du chapitre 2, au moment où nous avons le nouveau témoignage de Jean-Baptiste, c'est-à-dire chapitre 3, 22. Je crois que Jean-Baptiste joue un très grand rôle dans cette première période, ce qui est normal. Nous avons vu que Jean-Baptiste jouait ce rôle très important d'offrir à Jésus ses deux disciples qu'il aimait le mieux, Jean et André, et que Jésus lui avait pris les deux disciples qu'il aimait le mieux. Et qu'il avait pris auprès de Jean-Baptiste. Bien, nous voyons ici que Jean-Baptiste va jouer ce rôle très grand de témoin. Il est le témoin du mystère de l'agneau. Nous l'avons vu. Il est le témoin du mystère de l'époux. De sorte que je crois que nous pouvons dire que dans ce premier moment de la vie apostolique de Jésus, Jésus nous fait comprendre le mystère de l'agneau, le mystère de l'époux. La double éducation, le mystère de l'agneau, c'est la miséricorde, le mystère de l'époux, c'est l'amour jaloux. Et donc, c'est les deux choses principales et primordiales qu'il faut comprendre. Pas de formation chrétienne sans comprendre le mystère de l'agneau, sans comprendre le mystère de l'époux. Si vous ne comprenez pas le mystère de l'agneau, vous ne pouvez pas espérer et vous désespérez tout le temps. Et si vous ne comprenez pas le mystère de l'agneau, vous n'entrez pas dans l'intimité profonde du cœur de Jésus. C'est très beau de voir ces deux aspects. Et puis le dernier moment, c'est Jésus qui lui-même se révèle comme fils bien-aimé du Père. Nous avons donc, dans cette première période, des éclosions de la charité dans le cœur des apôtres par Jésus, cette première éducation du Christ. Nous avons donc ces trois grandes lumières qui, je crois, nous donnent vraiment les grands axes de la théologie johannique sur Jésus. Jésus, c'est l'agneau. Jésus, c'est l'époux. Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père. Les trois grands axes. Il est l'agneau, il est l'époux parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Alors vous voyez tout de suite que l'ordre que saint Jean prend est très différent des synoptiques. Dans les synoptiques, on voit avant tout Jésus, prophète, prêtre, roi. C'est-à-dire qu'on reste un peu dans le prolongement de toute la grande vision de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes, c'est les prêtres et les rois. Et c'est vrai que c'est la première annonce de Jésus qui se fait de cette manière-là. Jean nous donne une lumière d'une intériorité nouvelle. Il ne dit absolument pas que Jésus soit prophète, roi et prêtre. C'est bien évident. Mais Jean va nous montrer d'une manière beaucoup plus forte que toute la vie apostolique de Jésus ne peut se comprendre que dans la lumière du sacerdoce du Christ. Et que l'aspect prophète et que l'aspect roi se comprend dans la lumière du sacerdoce. C'est en ce sens-là qu'on a dit, et je crois que c'est très juste, que l'épître aux Hébreux est comme l'intermédiaire entre les synoptiques et saint Paul, et puis l'évangile de Jean. Parce que l'épître aux Hébreux nous donne la grande vision sacerdotale du Christ. Ça, c'est sûr. Quand vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est évident que la vision dominante de l'épître aux Hébreux, c'est le sacerdoce de Jésus. Et on montre la grandeur de ce sacerdoce. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, parce que c'est le sacerdoce du Fils. Parce que c'est le sacerdoce du Christ, du Fils, il est royal. Et parce qu'il est sacerdoce du Fils, il est ultime. Il est dernier, il n'y a plus rien après. Donc, c'est le sacerdoce par excellence. Il n'y a pas un autre sacerdoce après. Il n'y aura pas un sacerdoce après, un sacerdoce du Saint-Esprit, comme certains le voudraient, n'est-ce pas ? Non. Le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce de l'Esprit-Saint. Parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Et donc, c'est le sacerdoce de l'Esprit-Saint. On est baptisé dans l'eau, on est baptisé dans l'Esprit-Saint. Il faut bien comprendre cela. Et ça, je crois que c'est assez net quand on regarde l'Épître aux Hébreux. Donc, il faut essayer de saisir cette vision nouvelle que Jean nous donne, qui va plus loin, qui ne nie rien de tout ce qui a été dit avant, mais qui va plus loin parce qu'elle nous donne une nouvelle intériorité. Et cette intériorité nouvelle, c'est d'essayer de comprendre que Jésus est prophète, prêtre, roi, comme fils bien-aimé. C'est-à-dire, c'est un sacerdoce d'amour. Et parce que c'est un sacerdoce d'amour, c'est une royauté dans la pauvreté. Et parce que c'est un sacerdoce d'amour, son aspect prophétique nous révèle l'amour. C'est le mystère de ce sacerdoce d'amour qui fait comprendre comment le prêtre et la victime ne font qu'un. Et c'est la victime qui éclaire le prêtre. Parce que la victime se manifeste davantage. Et c'est pour ça que tout commence par le cycle de l'agneau. Pour nous faire entrer dans le cycle de l'époux et pour nous faire contempler le mystère du Fils bien-aimé. Donc il y a un ordre. Vous voyez, il y a un ordre de sagesse qu'il faut essayer de découvrir progressivement. Et quand vous découvrez progressivement cet ordre de sagesse, alors vous en voyez toute la richesse, c'est ça qu'il faut saisir, toute la plénitude. On peut donc dire, dans ce premier moment, du chapitre 2 au chapitre 6, donc la première année, la première formation, le point de vue, mystère de joie, les éclosions de l'amour. Dans ce mystère des éclosions de l'amour, je crois que nous pourrions dire ceci. Premièrement, le mystère de l'agneau, ou la manifestation de l'agneau. Cette manifestation de l'agneau, elle se fait par Cana, la purification du temple, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, et l'enseignement du Christ à Nicodème. Vous avez donc deux gestes et un discours. Alors là, nous découvrons les dimensions du mystère de l'agneau. Autrement dit, nous découvrons à travers ces trois, nous découvrons les dimensions de la miséricorde de l'agneau. La miséricorde de l'agneau a ces trois grandes dimensions. C'est la théologie, si vous voulez, du mystère de la miséricorde de l'agneau. Vous avez ensuite la grande lumière de Jean-Baptiste, qui montre le mystère de l'époux. Et nous avons le cycle de l'époux. Et le cycle de l'époux, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est normal. Les rencontres auprès du puits sont toujours des rencontres sponsables. selon tout l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Donne-moi à boire, c'est le mot d'ordre. Et Jésus rencontre la Samaritaine. Puis nous avons la rencontre avec le petit, le père dont le fils agonise, ce père qui est Basileus, petit Basileus, à Capharnaüm. Et puis nous avons Jésus qui rencontre l'infirme à la piscine de Bethsaida. Et enfin, dernier moment, le Christ qui révèle le mystère de son lien avec le Père. Nous avons donc, si vous êtes attentifs, 7 moments. C'est assez curieux, hein ? C'est pas encore une fois pour retrouver les chiffres 5, 7, mais c'est intéressant. C'est intéressant de les souligner un peu. Vous voyez ? Nous avons 7 moments, ce qui fait une très belle harmonie du reste. 7 moments avec le cycle de l'agneau, le cycle de l'époux, et puis la révélation du Fils bien-aimé. C'est le Fils bien-aimé qui nous fait comprendre son lien avec le Père. Alors vous voyez ce crescendo, hein, qui est très beau. Et vous avez une harmonie parfaite, vous avez 2 signes, un dialogue, 2 signes. Et ensuite, un grand discours. Grand discours du Christ, un discours contemplatif, merveilleux. Et ce discours contemplatif est trinitaire. C'est Jésus qui lui-même nous montre son lien avec le Père. Alors, entrons dans ce premier moment, que j'intitule cela « Cycle de l'agneau », parce que ça me semble être directement dans la lumière de la révélation de Jean-Baptiste. Et comme Jean est sensible à la révélation de Jean-Baptiste, c'est pas étonnant. Il veut nous faire comprendre les liens entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Il veut nous faire comprendre la continuité et le dépassement. Je crois que c'est le grand souci de Jean, cela. Parce que Jean a été meurtri au plus intime de son cœur de voir comment les grands prêtres rejetaient Jésus. Je crois que c'était la grande souffrance de Jean. Et ça l'a marqué très fort. Parce que Jean, selon son évangile, était connu du grand prêtre. Pas du tout un inconnu. Les autres, Pierre, pas du tout. Jean, c'était un peu différent. Il y avait dans Jean quelque chose d'assez particulier. Parce que de fait, il était connu. Et si Pierre a pénétré dans la cour du grand prêtre, c'est à cause de Jean. Donc ce qui indique bien qu'il avait des relations que Pierre n'avait pas. Il pouvait faire entrer quelqu'un. On voit très bien comment ça se passe. Vous voyez, dans une communauté, nous avons des relations diverses. Alors quand on va dans tel ou tel endroit, bien vous passerez devant, parce que vous êtes connu. Alors faites le sillage, tout de suite, immédiatement. Alors les autres s'enfiltrent par derrière. On est tous de la même famille, alors on peut y aller. Mais il y en a un qui connaît, on sait très bien, les relations multiples et diverses. Eh bien on utilise cette relation de Jean. Pierre l'utilise. Évidemment, ça n'a pas été très très bon pour Pierre. Mais il l'a quand même utilisé. Alors c'est intéressant de voir ça, parce que Jean est très sensibilisé à ça. Il est très sensibilisé au problème, au mystère du refus, du rejet du Christ. Alors que Jésus venait en premier lieu pour les brebis d'Israël. Et les brebis d'Israël ne l'ont pas reçu. Alors Jean veut nous faire comprendre cela. Avec beaucoup de précision, et en même temps pour nous montrer la miséricorde du Christ, qui dépasse le refus. La victoire de l'agneau sur le refus. Vous voyez, c'est la proximité de l'agneau sur le refus. Il y a cela dans l'évangile de Saint Jean, parce que c'est là où on saisit la miséricorde du cœur de l'agneau. Alors, vous avez donc le premier cycle, que je crois que je peux dire le cycle de l'agneau. Cana, purification du temple, et puis Nicodème. Alors vous voyez bien, c'est facile à comprendre, que ce premier moment est réservé à Israël. Alors que dès que vous avez le cycle de l'époux, c'est l'éclatement. C'est très curieux. Mais le Saint-Esprit nous désoriente tout le temps. C'est jamais en continuité avec notre psychologie. Quand vous êtes en continuité avec votre psychologie, vous êtes surpète dans la ligne du Saint-Esprit. C'est très curieux, ça. Il nous désoriente tout le temps. Nous aurions dit l'inverse. L'amour de l'époux, c'est pour Israël, et la miséricorde, c'est pour ceux qui sont en dehors. Pas du tout. La miséricorde est à l'égard du peuple d'Israël, parce que c'est dans la miséricorde qu'on est le plus proche. Et la jalousie de l'époux, c'est la samaritaine. La samaritaine, c'est la sœur séparée. Elle n'est pas tout à fait orthodoxe. Puis en plus de ça, elle a mené une drôle de vie. Alors c'est évident que c'est pas normal, hein, que l'époux soit en premier lieu pour la samaritaine. Il aurait mieux choisi quelqu'un d'autre. Hein. C'est quand même un petit peu curieux. Au moins, dans l'Ancien Testament, c'était Rebecca, c'était Rachel. C'était quand même pas mal. Tandis que là, la Samaritaine, vieillie par l'âge et un peu à côté de la plaque. Puisqu'à fond, en dehors. Quelqu'un qui est un tout petit peu en dehors. Et après, c'est l'officier royal de Capharnaüm. Il n'est pas du peuple d'Israël. Et en dernier lieu, les pauvres types de la piscine de Bethsatan. Les excommuniés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont tout près du temple, mais ils sont excommuniés, sont rejetés complètement. La piscine de Bethsatan, c'est un vrai, c'est très curieux ça. Et c'est ceux-là qui font partie du cycle de l'époux. C'est assez bouleversant du reste quand on saisit ça, parce que là on saisit ce qu'est le cœur de l'époux. On saisit le regard de l'époux, à la différence du regard de miséricorde de l'agneau. L'agneau, il porte l'iniquité. Alors, il est tout proche de ceux qui ont besoin de la miséricorde et du pardon. Mais il porte l'iniquité. L'époux, c'est la victoire de l'amour. Et c'est la victoire plénière de l'amour. Et cette victoire plénière de l'amour dépasse toutes les frontières. Elle dépasse tout ce que les hommes mettent comme opposition. Les hommes font toujours des castes. Et la victoire de l'amour dépasse tout cela, brise tout cela. Et on voit bien ce dépassement, ces brisures qui se font à travers le regard du Christ sur la Samaritaine, le regard du Christ sur cet officier royal, ce père, et le regard du Christ sur l'infirme à la piscine de Bethsatan. Il y a le regard de Jésus, le regard de l'époux, qui triomphe de toutes ses limites, de toutes les zones limites que mettent les hommes. Puis alors, en dernier lieu, Jésus qui se présente comme fils bien-aimé. Alors nous avons d'abord Cana, nous connaissons bien Cana. C'est quelque chose de très très beau. Il faut beaucoup aimer Cana parce que c'est le point de départ. Alors, vous êtes comme petit Jean, hein, il faut bien connaître son point de départ. C'est ce qu'on connaît le mieux. Alors, Cana, il faut... Et pour nous, c'est très important, Cana. C'est le point de départ. Ça fait partie du premier jour de l'entrée dans la communauté Saint-Jean, Cana. C'est merveilleux, les miséricordes de l'agneau. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Alors on a souligné, et c'est très bien de souligner ça, c'est les pères cappadociens, c'est très vieux. Ils ont souligné le troisième jour, compté à partir du premier moment où Jésus rencontre Jean-Baptiste. Le lendemain, le lendemain, le lendemain, il suffit de compter, c'est très facile. Et les pères cappadociens ont dit, c'est la seconde semaine. La première semaine, c'est celle du Père Créateur. La seconde semaine, c'est celle de Jésus. Et la troisième semaine, c'est celle du Saint-Esprit. Ça, c'est tout à fait la vision cappadocienne. C'est très beau, les trois semaines. Et vous avez donc ici la semaine du Fils. À la semaine du Fils, regardez bien, le troisième jour. C'est le septième jour. Quand le Père se repose, le Fils prend la relève. C'est exactement ça. Le Père s'est reposé et pendant ce temps-là, Ève a péché et Adam a péché et toute la race humaine est enfermée dans le péché. Le Fils reprend tout. Il va tout recréer dans la miséricorde. Et son premier geste, c'est le septième jour. C'est pas pour rien, j'en suis persuadé, qu'il y a là quelque chose qui nous fait comprendre qu'en effet, Jésus, c'est celui qui travaille le septième jour. Il reprend tout. C'est la miséricorde du Fils. C'est une miséricorde de recréation qui reprend tout. C'est pour nous donner tout de suite cette dimension que toutes les œuvres apostoliques du Christ sont liées à la croix et doivent être vues dans la lumière de la croix. Puisque toute la vie apostolique de Jésus est terminée par la lumière de la croix. Ça, c'est saint Augustin qui nous dit ça. Et ça, je crois que c'est très très juste, c'est très vrai. Vous ne comprenez rien à la vie apostolique de Jésus si vous ne la regardez pas dans la lumière de la croix. Comme vous ne comprenez rien à votre vie si vous ne la regardez pas dans la lumière de la croix. Dès que vous quittez la lumière de la croix, vous ne comprenez plus rien du tout. Si vous vivez dans la lumière de la croix, alors c'est magnifique. C'est dur, hein, c'est rude, mais on n'est pas à contre-jour. On est dans la pleine lumière. Et on saisit la pleine lumière. Toutes les tentations qui peuvent exister dans votre vie, c'est de regarder les événements à contre-jour. C'est-à-dire de ne pas les regarder dans la lumière de la croix. Oui, c'est important de voir ça, que tout de suite ça nous est donné, parce que ça nous donne cette vraie lumière que saint Jean ne cesse de rappeler. Hein. Il ne cesse de rappeler que si on marche dans la lumière, bien on ne trébuche pas. Mais dès qu'on marche dans les ténèbres, on trébuche. Et marcher dans les ténèbres, c'est oublier la lumière de la croix, puisque la lumière de la croix, c'est la sagesse. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Une noce. C'est la noce, hein, par excellence, c'est bien évident. Et la mère de Jésus y était. Donc on souligne ce petit détail très simple. Cana, c'est pas très loin de Nazareth. C'est bien évident. C'est pas très loin de Nazareth. Alors on comprend très bien, c'était des amis. C'est curieux que toute la vie apostolique de Jésus commence chez des amis et elle se termine chez des amis. Béthanie, Cana. Et ceci, ce n'est pas non plus indifférent. Ça nous aide à comprendre ce que c'est que la vie apostolique de Jésus. Vous voyez, il n'y a pas de mise entre parenthèses en disant « Maintenant, les amis, ça ne signifie plus rien du tout, puisque j'entre dans une mission que le Père m'a envoyée. » La mission est la mission du Fils bien-aimé, et donc cette mission va s'inscrire dans des amitiés qui existent au niveau humain, au niveau familial. Cette amitié était au niveau familial, ça c'est sûr. La mère de Jésus y était, donc elle était invitée. Et ça nous fait comprendre aussi, voyez, ce que Marie réalise. Jésus est parti au désert. Jésus a commencé sa vie apostolique. Marie aurait pu porter le deuil et dire qu'à partir de là, je vais mener une vie d'austérité, je ne vais plus voir personne, pas du tout. C'est très beau, ça. Marie priait intensément pour la vie apostolique de Jésus. Ça semble impossible autrement. Mais les noces, quand Jésus est absent, ce moment dans la vie de Marie qui a joué ce rôle si important dans sa vie, où Marie a été seule. Marie a été seule pendant toute une période. Quand Jésus est parti au désert, Jésus n'a pas envoyé quelqu'un en disant « Il faut aller auprès de ma mère, elle est seule. » Non. Marie était auprès de ses parents, Marie était avec Joseph, Marie était avec Jésus. Et Marie a connu une grande solitude. Cette période de la vie de la Sainte Vierge, quand Jésus est au désert. Marie a été au désert. Ah, au désert pas, physiquement, c'était impossible pour une femme. Elle est restée seule. Et je suis persuadé que ça a correspondu dans la vie de la Très Sainte Vierge à des périodes de grandes tentations. Tentations du démon qui ont rôdé autour. Quand la femme est seule, le démon rôde. Alors le démon a rôdé autour. Il ne nous est rien dit, hein. Mais si nous voulons essayer de comprendre, on saisit qu'il y a ça. Marie était seule et Marie a été invitée. Elle a été invitée à ses noces. Et Marie a dû avertir, puisque si Marie est invitée, Jésus est invité. Marie a averti que Jésus n'était plus là. Alors Jean souligne, Jésus aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Ça, c'est la réaction de Jésus. Vous m'invitez, mais alors, il faut que je vienne avec mes disciples. C'est du reste très beau. Jésus, à partir de ce moment-là, ne peut plus se séparer de ses disciples. Il vit avec eux.